France Info.
Les jours qui rallongent la durée d'ensoleillement dépassera les 10 heures par jour. Là, ça y est, nous y sommes. Seulement, on a pas mal de nuages et on voit très peu le soleil.
Merci beaucoup Christine Peña. Et d'ailleurs, nous allons faire un point dans le journal qui arrive sur les conséquences de cette tempête Niels. Merci à tous d'écouter France Info. Il est 5 heures. Et à la une de ce 12 février, un duo en or, c'était donc tard hier soir, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry sont montés sur la première marche du podium en danse sur glace aux Jeux de Milan. La date est fixée pour Marine Le Pen, elle sera le 7 juillet si elle est condamnée à nouveau et privée de présidentielle pour de bon. Des enquêtes ouvertes après la mort de 4 nourrissons dans le scandale du lait infantile. Et puis la mort d'une icône, James Van Der Beek est mort, c'est lui qui incarnait Dawson dans la série. La France est désormais sixième au tableau des médailles. Aux Jeux de Milan-Cortina, les tricolores en ont remporté 4 hier, 2 en or, l'une pour Julia Simon en biathlon et l'autre donc hier soir à la patinoire de Milan pour Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry, le couple français de danse sur glace. Guillaume Cizeron qui réussit un pari, conserver son titre olympique alors qu'il a changé de partenaire il y a très peu de temps, Xavier Monferrand.
De la patrie, un jour de gloire est arrivé, mais c'est arrivé.
Sur le podium des JO, Laurence Fournier-Baudry connaît par cœur les paroles de la Marseillaise. Elle n'est française que depuis 3 mois, n'est aux côtés de Guillaume Cizeron sur la glace que depuis 1 an. Mais pour lui, c'est comme s'ils patinaient ensemble depuis toujours.
C'est un moment incroyable, honnêtement. Le plus vertigineux, c'est de regarder 1 an en arrière et de voir tout le chemin qu'on a parcouru. C'était tellement rapide. Ouais. Le fait de croire l'un en l'autre, ça nous a donné énormément de force pour arriver jusqu'ici.
Celui qui a cru en eux, qui a vu à quel point ils étaient fusionnels sur la glace, c'est leur entraîneur Romain Aguenauer. Une alchimie qu'il a lui-même du mal à expliquer et qui est la clé de leur succès.
Il y a un talent presque impalpable. Laurence comme Guillaume se mettent en valeur l'un l'autre. On ne voit qu'un et en si peu de temps, c'est vrai que c'est exceptionnel. Et j'imagine même pas d'autres patineurs que j'ai déjà entraînés changer de partenaire et arriver à un tel résultat. C'est incroyable.
Et leur entraîneur est convaincu que ce n'est que le début de l'aventure pour le nouveau duo doré du patinage français avec l'idée d'aller jusqu'au JO à la maison dans 4 ans pour défendre leur titre.
Merci beaucoup Xavier Monferrand à suivre aujourd'hui au JO de Milan-Cortina du ski alpin. Ce sera en fin de matinée, le Super G féminin avec une chance de médaille pour Roman Miradoli et la finale aussi du ski de bosse pour les hommes avec là aussi des possibilités de médaille pour des Français, Benjamin Cavé et Thibaut Mouille. À la une également ce matin, cette tempête Niels qui a commencé à balayer le pays par la façade ouest. Elle est arrivée par la côte atlantique et elle s'enfonce dans les terres. Bonjour Mélodie Pépin.
Bonjour.
La conséquence donc, c'est une trentaine de départements en vigilance orange pour le vent, la pluie, les crues, la Gironde, le Lot-et-Garonne, l'Aude et la Savoie s'apprêtent même à passer en vigilance rouge. Les habitants retiennent leur souffle. C'est une tempête d'une force peu fréquente, dit Météo France.
Oui, elle est arrivée avec un peu d'avance et brusquement avec des vents qui sont passés de 60 à 120 km/h, par exemple à Bordeaux, en à peine une demi-heure hier soir. Et partout sur la côte, vous l'entendez, ce vent tempétueux qui souffle des relevés à plus de 100 km/h, 162 km/h à Biscarros relevé. Le pic est passé sur la côte atlantique, mais ça souffle toujours fort avec de nombreux arbres couchés sur les routes, des pins déracinés. Et partout sur le sud-ouest, c'est une véritable douche. Des dizaines de cours d'eau sont en alerte. Le niveau de la Garonne ne cesse de monter avec des débordements par endroits. Une trentaine d'habitants de la Réole en Gironde ont même dû évacuer sur les quais. Il faut dire que les sols sont déjà gorgés d'eau puisqu'il y a beaucoup plu depuis le début de l'année. C'est donc un cocktail inquiétant. Par précaution, de nombreux trains sont supprimés en Nouvelle-Aquitaine. Des vols annulés au départ de Bordeaux-Mérignac. Le trafic maritime entre la Corse et le continent est perturbé car la tempête se déplace avec force vers la Méditerranée et jusqu'en Savoie, placée en vigilance rouge pour les avalanches. Le risque est maximal 5 sur 5. Conséquence, la station La Plagne est fermée pour la journée, tout comme une grande partie des domaines de Chamonix et Courchevel.
Merci beaucoup Mélodie Pépin pour ces précisions. On continuera à surveiller la situation avec vous tout au long de ce 5-6 sur France Info. Marine Le Pen devra attendre le début des vacances d'été pour connaître son avenir politique. La Cour d'appel de Paris a donc mis sa décision en délibéré hier soir jusqu'au 7 juillet dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du Front National. Les magistrats se donnent donc, Yannick Falt, 5 mois pour statuer sur l'avenir politique de la déjà triple candidate à la présidentielle.
L'élection présidentielle rend l'arrêt que vous allez rendre vertigineux, lance à la fin de sa plaidoirie l'un des avocats de Marine Le Pen. Mais au micro, Rodolphe Bosselu dit ne pas vouloir mettre la pression sur les magistrats. Simple rappel de l'enjeu, selon lui.
J'ai rappelé pourquoi ma cliente avait dit que ce serait la dernière décision, parce qu'il est totalement irréaliste de penser que parce qu'il y aurait un arrêt de la Cour de cassation selon le résultat de la Cour d'appel en janvier, l'élection présidentielle serait sauvée pour ma cliente. Ça n'a aucun sens. Une élection présidentielle, c'est un an de campagne et il faut, me semble-t-il, être déjà très au fait de qui pourra être candidat.
Plus le délibéré est tard, plus la campagne tarde à démarrer. Souligne de son côté Marine Le Pen dans un message à France Info, tout en assurant se réjouir que la Cour d'appel prenne son temps, le temps d'analyser les problèmes de droit que pose le dossier, le temps, espère-t-elle, de revoir à la baisse sa peine d'inéligibilité. Si elle est ramenée à 2 ans, les portes de l'Élysée lui restent ouvertes, mais les juges peuvent aussi confirmer la condamnation de première instance, voire même l'alourdir. Et puis même si elle n'est pas inéligible, reste pour Marine Le Pen la question d'une éventuelle campagne sous bracelet électronique.
Merci beaucoup Yannick Falt. Sont-ils morts car ils ont consommé du lait infantile contaminé? 4 décès de nourrissons ont été portés à la connaissance des autorités. C'est une information de la cellule investigation de Radio France signée Marie Dupin. Marie, vous nous révélez que 4 enquêtes pénales sont d'ailleurs ouvertes.
Oui, 3 de ces enquêtes pénales concernent des nourrissons ayant consommé des lots officiellement retirés du marché. Mais une 4e enquête est également ouverte à Toulouse après le décès d'une fillette de 8 mois début février. Selon le ministère de la Santé, ce cas ne fait pas partie des décès officiellement recensés. Le lait consommé ne provenant pas d'un lot rappelé. Mais le procureur de Toulouse précise, lui, que la possibilité que le décès soit consécutif à l'ingestion de lait infantile est envisagée. Dans ces 4 enquêtes, des analyses sont en cours à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Des investigations complexes. Depuis des années, en effet, des scientifiques alertaient les pouvoirs publics sur la nécessité de créer un laboratoire national de référence dédié à cette toxine et capable d'intervenir rapidement en cas de crise sanitaire. Le laboratoire n'a jamais été créé. Les équipes travaillent donc sans structure spécialisée, avec des moyens contraints, alors même que les signalements se multiplient.
Marie Dupin de la cellule investigation de Radio France. Vous retrouvez cette enquête sur franceinfo.fr. Il est 5h07. La voiture peut prendre feu. Le constructeur automobile allemand BMW rappelle des centaines de milliers de véhicules en cause un risque d'incendie lié à un démarreur défectueux. L'entreprise a confirmé l'information hier soir. C'est un rappel qui concerne des véhicules en circulation dans le monde entier et plusieurs modèles. Sébastien Baer.
Selon le magazine spécialisé KF7 Betrieb, 575 000 véhicules au total sont concernés. Ce nombre n'a pas été confirmé par BMW, qui indique simplement que plusieurs centaines de milliers de voitures présentent un risque. Parmi elles, 4 053 sont en circulation en France et 28 500 en Allemagne. Au total, 16 modèles produits entre juillet 2020 et juillet 2022 sont visés par ce rappel. Le défaut a été constaté lors d'un contrôle qualité suite à des réclamations de clients. BMW a constaté qu'une usure peut apparaître au niveau d'un composant du démarreur, avec pour conséquence des difficultés à lancer le moteur ou, pour les cas les plus graves, une surchauffe, voire un incendie. Le groupe recommande de ne pas laisser les voitures sans surveillance après le démarrage. Les clients concernés par le rappel sont invités à se rendre chez leur concessionnaire dès que possible pour remplacer le démarreur et, dans certains cas, également la batterie.
Merci beaucoup Sébastien Baer, correspondant à Berlin de France Info. Et vous retrouvez la liste des modèles qui sont concernés sur franceinfo.fr, des voitures du constructeur, rappelle BMW. Alors que le chômage est en hausse en France, selon les derniers chiffres de l'INSEE, eh bien il y aura tout de même des recrutements massifs cette année. L'usine Nouvelle, magazine de référence, publie le classement des entreprises qui recruteront le plus en 2026. En tête, on trouve la SNCF avec 17 000 CDI. Deuxième, le groupe de luxe LVMH, 15 300 recrutements. Et le bronze, c'est pour l'opérateur de transport Transdev qui recrutera 9 000 personnes. Et puis, il était l'un des visages les plus connus de la télévision des années 90-2000. James Vanderbeek est mort hier, c'est lui qui incarnait le jeune Dawson dans la série du même nom qui était diffusée sur TF1 entre 98 et 2003. Il avait annoncé il y a 2 ans souffrir d'un cancer, il s'éteint donc à l'âge de 48 ans. Il est 5h09 sur France Info et c'est l'heure de faire un nouveau point sur cette tempête Niels. Christine Peña, nous sommes en plein cœur de la tempête. Hein.
Exactement, elle est en train de passer, c'est surtout le sud du pays qui est concerné puisque les vents les plus violents là se trouvent entre Toulouse et la Méditerranée jusqu'à l'Hérault. Le Roussillon est concerné par ces vents violents. La Corse également. Nous avons ces précipitations assez soutenues, assez continues encore ce matin, qui devraient s'estomper un peu. C'est un régime d'averse qui va s'installer sur la France. Les pluies les plus continues viendront se caler là sur les massifs de l'Est, donnant de la neige d'ailleurs en montagne. Et puis nous avons quelques impacts orageux également qui pourraient se produire du côté de la façade atlantique, aux alentours de la Gironde ou encore vers le Tarn et le sud du Massif central.
Merci beaucoup Christine Peña, 5h10.
Municipal 2026, France Info en campagne. Que faire pour attirer les entreprises?
Journée spéciale en direct de Cholet.
Commerce, économie, comment préserver et dynamiser un bassin d'emploi?
Quelle formation pour les métiers de demain?
Peut-on se réinventer grâce au Made in France?
Toute la journée, invités et reportages.
Municipal 2026, France Info en campagne, en direct de Cholet.
Journée spéciale sur France Info.
En partenariat avec Ouest France.
D'ici 5h30 sur France Info, nous allons revivre le sacre au JO de Milan-Cortina de Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron, le duo de patineurs qui a remporté hier soir la médaille d'or. Mais d'abord, nous en parlions à l'instant, revenons à cette tempête Niels qui souffle déjà fort.
France Info, 5h-6h, William Decosta.
Avec des rafales à plus de 160 km/h enregistrées sur la façade atlantique et une grande partie de la moitié sud qui fait donc face à ces vents puissants et à la pluie. Le Lot-et-Garonne et la Gironde sont placés en vigilance rouge au cru en raison de ce passage de la tempête Niels. L'Aude est en rouge pour le risque de vent. La Savoie aussi, c'est un peu plus loin pour le risque d'avalanche. Météo France et Vigicru appellent donc à la plus grande prudence. C'est pareil pour Météo Prédict, filiale qui conseille les collectivités locales. Alix Roumaniac et son directeur.
C'est un peu la particularité de cette tempête Niels. Hein. On voit les conséquences qu'elles vont provoquer en France. C'est à la fois un risque de submersion marine, un coup de mer très important, que ce soit sur la façade atlantique ou la Corse. Donc, coup de mer, c'est des crues qui partent de la pointe bretonne jusqu'au sud-ouest, avec effectivement jusque de la vigilance rouge pour le fleuve Garonne, placé par nos collègues de Vigicru sur les départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne, mais aussi du vent et de la neige avec une vigilance rouge qui est extrêmement rare sur de l'avalanche dans le nord des Alpes, avec nos collègues de Météo France annoncent des risques d'avalanche de très grande envergure pouvant descendre très bas dans les vallées. Donc il faut que l'ensemble des auditeurs écoutent vraiment les consignes des autorités sur tous ces risques, que ce soit effectivement la risque de submersion, les crues, le vent ou les avalanches.
Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel cette dépression?
Son caractère un peu exceptionnel, c'est qu'elle arrive après une succession de plusieurs tempêtes et dépressions qui ont touché la France maintenant depuis près de 2 mois. Donc on a des sols qui sont très saturés, donc on a des réactions de cours d'eau qui vont être très rapides et qui montent très haut avec des crues d'ampleur importante. Mais du coup, ces sols saturés peuvent avoir aussi d'autres conséquences. Hein. On parlait de la vigilance rouge au vent qui est dans le département de l'Aude. On sait que ce soit sur l'Aude, mais aussi sur l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, qui ont aussi en vigilance orange. Le vent va trouver des sols qui sont très saturés, donc tous les arbres ont du mal à résister au vent, donc des chutes d'arbres peuvent être très importantes, d'où des recommandations de prudence absolue pour tous les gens qui nous écoutent. Éviter les circulations, parce qu'effectivement, les arbres risquent de tomber sur les circulations, beaucoup de prudence, et donc c'est ça, cette particularité de cette tempête, c'est que c'est déjà la énième depuis le mois de décembre qui touche notre territoire.
Alors, elle apporte aussi des vents extrêmement violents, attendus notamment dans le département de l'Aude.
Oui, tout à fait. Hein. Alors, on a plus l'habitude d'avoir des tempêtes avec des vents violents sur les côtes de la Manche. Là, la tempête, ses conséquences vont être plus dans le sud-ouest. C'est quelque chose qui va arriver depuis l'Atlantique, traverser les départements du sud-ouest et arriver dans la vallée du L'Aude qui, qui fait une sorte de venturi, ça accélère les vitesses de vent et donc on va avoir des vitesses de vent qui peuvent approcher les 150 km/h sur certains endroits. Et comme je le disais, avec des sols qui sont imprégnés d'eau, très saturés, beaucoup de risques de chute d'arbres. Donc une extrême précaution et suivre vraiment les consignes des autorités sur tous ces territoires.
Un tout dernier mot, Alix Roumaniac, pour parler des Alpes, parce qu'il y aura des conséquences importantes également, une vigilance extrême en raison du risque d'avalanche dans les départements alpins et notamment la Savoie.
Oui, tout à fait. La Savoie qui a été en particularité pointée par une vigilance rouge avalanche, qui peuvent descendre très bas dans les vallées et impacter des bas de vallée, des routes, des infrastructures, des voies SNCF, des routes. Et donc, ce n'est pas qu'un risque d'avalanche pour les gens qui pratiquent le ski, mais c'est aussi un risque de conséquences sur des gens qui sont dans une activité normale, d'où cette vigilance rouge et d'où des mesures particulières qui sont prises par les communes, les départements et les services de sécurité de ces différents départements, que ce soit effectivement sur de la vigilance rouge, mais aussi vigilance orange qui n'est pas sans risque dans ces départements du nord des Alpes.
On attend des cumuls de neige importants. À partir de quelle altitude ?
Météo France annonce des cumuls de neige de l'ordre de 1 mètre de neige sur des manteaux qui ne sont pas encore complètement stabilisés, d'où ce risque d'avalanche très importante.
Le directeur de Météo Prédict, Alix Roumaniac, qui était hier soir sur France Info avec Julien Langlais.
France Info, Milan Cortina 2026.
La France a désormais 3 médailles d'or au compteur des JO de Milan-Cortina. Les tricolores en ont décroché 2 rien qu'hier, tard dans la soirée. C'est le duo Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron qui a décroché le Graal en danse sur glace. Et je vous propose de revivre leur sacre en direct hier soir sur France Info avec notre consultante Sarah Bitbol, ancienne championne de patinage artistique, et les deux commentateurs de France Info, Philippe Rendé et Xavier Monferrand.
Vice-champion olympique. 225,82, ils ont battu les Américains.
C'est génial.
Ils tombent dans les bras de leur coach. Champion olympique de danse sur glace, Guillaume Cizeron, Laurence Fournier-Baudry.
C'est extraordinaire.
Ils se tombent dans les bras l'un de l'autre et je vois Guillaume qui craque.
Combien ?
Guillaume qui craque, 225,82, ils ont mis plus d'un point aux Américains.
Et les Américains qui les applaudissent. Extraordinaire,
c'était un duel Guillaume. Magnifique.
Quelle journée pour le sport français avec une nouvelle médaille d'or. Guillaume Cizeron qui entre dans l'histoire du patinage olympique. N'ayons pas peur des mots, puisqu'il est double champion olympique avec
médaillé
deux partenaires différentes.
Médaillé d'argent en 2018, 5 fois champion du monde, 6 fois champion d'Europe. Il n'y a pas plus grand patineur que lui dans l'histoire. Il ne s'en remet pas. Hein. Là, on sent les nerfs qu'il lâche. Il craque.
Quelle histoire. Sarah, vous avez repris votre souffle.
Sarah, dites quelque chose.
J'ai les larmes. C'est magnifique, c'est fantastique. Vraiment bravo, c'est des deux grands champions. Ils ont travaillé comme des fous. Ils se sont remis en question. Ils ont changé la musique de leur programme court, de la danse rythmique, parce que ça ne plaisait pas aux juges. Histoire d'année 89-90. Ils ont toujours travaillé. Et cette remise en question les a fait gagner aujourd'hui, j'en suis sûre. Maintenant, ce qui fait la différence à quelques dixièmes près, je pense que c'est la prise de vitesse, notamment dans les twizzles et dans tout au long de leur programme. Ils ont une glisse en fait naturelle, bon, qu'ils ont dû énormément travailler bien sûr, mais qui fait qu'ils ont de la reprise d'élan. Et là-dessus, sur cette technique-là, c'était un tout petit peu au-dessus des Américains. Quoi. Si on regarde vraiment le détail du détail du détail, en étant très perfectionniste. Hein. C'est le premier patineur au monde à avoir 2 médailles olympiques avec 2 partenaires différentes en danse sur glace. Donc voilà, il marque l'histoire par cet exploit.
C'est assez fou, alors que ça y est, la médaille d'or autour du cou de Laurence, la médaille d'or à l'instant autour du cou de Guillaume. Voilà.
Et ça va être autour de la Marseillaise. Hein.
Et attention,
après le dernier salut du duo français envers le public avec la mascotte dans les mains.
C'est magnifique. La Marseillaise qui a donc résonné hier soir, vous l'avez vécu peut-être en direct sur France Info, pour Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry, médaille d'or en danse sur glace, sacre commenté par Sarah Abitbol, ancienne championne de patinage artistique, consultante de France Info, avec Philippe Randet et Xavier Monferrand. Plus de nucléaire, plus de renouvelables, quelle stratégie le gouvernement va-t-il choisir pour notre production d'énergie d'ici 2035? Le Premier ministre va le dévoiler aujourd'hui, mais on connaît déjà les contours. Rendez-vous après un tour complet de l'actualité.
France Info, 5h-6h.
Bonjour Sarah Ders.
Bonjour.
L'info en une minute à 5h20 et à la une. La tempête Niels, le Lot-et-Garonne et la Gironde sont en vigilance rouge au cru.
L'Aude en alerte rouge au vent violent, la Savoie pour avalanche. Une trentaine de départements du Finistère à la Corse sont concernés par une vigilance orange. Des rafales de vent à Biscarrosse, 122 km/h relevées la nuit dernière. Des habitants de la Réole en Gironde évacués. De nouvelles enquêtes pénales ouvertes dans l'affaire du lait infantile contaminé. 4 nourrissons sont morts, 3 ayant consommé des lots retirés du marché, le 4e ayant ingéré du lait qui n'avait pas été concerné par ce rappel. La France va réduire de plus de la moitié sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 1 milliard d'euros en moins à cause des finances publiques en difficulté. BMW rappelle des centaines de milliers de voitures. Le constructeur allemand invoque un risque d'incendie lié à un démarreur défectueux. Environ 4000 véhicules concernés en France.
France Info.
Trois lettres à la une ce matin. PPE pour Programmation Pluriannuelle de l'Énergie. Le Premier ministre Sébastien Lecornu est en déplacement dans le Jura et il va aujourd'hui dévoiler cette feuille de route des nouveaux projets de production d'énergie jusqu'en 2035. L'enjeu est évidemment énorme. L'objectif affiché, c'est de sortir des énergies fossiles. Mais alors, comment s'y prendre? Bonjour Lauriane Delanoë.
Bonjour.
Le Premier ministre va donc tenter de répondre à cette question aujourd'hui. Le monde politique est divisé sur la méthode. La publication de cette PPE, elle a été repoussée plusieurs fois depuis 2 ans et demi. Cette fois, c'est la bonne. Alors, qu'est-ce que le gouvernement va mettre dans cette feuille de route, Lauriane ?
Le gouvernement se donne une grande ambition, renverser notre mix énergétique. Aujourd'hui, 60% de notre consommation d'énergie vient des fossiles, le pétrole et le gaz. L'objectif est de réduire cette part pour atteindre au contraire 60% d'énergie décarbonée dans notre consommation, et ce d'ici seulement quelques années, en 2030. Pour y parvenir, la France mise sur son principal atout, une électricité déjà décarbonée, abondante et compétitive. Il en faudra plus pour atteindre les objectifs à long terme. Alors dans son décret, Sébastien Lecornu va acter la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. 6 EPR2, version améliorée de l'EPR. 8 autres seront en option dans le texte. En soi, les dossiers sont déjà bien avancés pour les 6 premiers, mais il faut les inscrire dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, car la précédente PPE, toujours en vigueur pour l'instant, prévoyait au contraire la fermeture de centrales nucléaires.
Alors Lauriane, il faudra au moins 12 ans pour construire le premier de ces nouveaux réacteurs, et le gouvernement veut réduire, vous l'avez dit, fortement la part des énergies fossiles d'ici 2030. Alors comment atteindre cet objectif?
Ça, c'est la question qui bloque depuis 2 ans et demi. Faut-il produire plus d'électricité au plus vite avec des éoliennes et des panneaux solaires? C'était la ligne d'Emmanuel Macron. En 2022, le président prônait le nucléaire et le renouvelable, notamment les éoliennes en mer. Mais depuis, la consommation d'électricité stagne. Et depuis, surtout, il y a eu la dissolution, les élections législatives, la valse des premiers ministres. L'énergie cristallise les divisions politiques. Les Républicains et le Rassemblement national veulent freiner le développement des éoliennes et du solaire. Le Premier ministre va donc trancher aujourd'hui et donner les objectifs pour chaque filière. Ces objectifs seront déterminants pour les entreprises du secteur. Elles craignent de devoir couper dans leurs effectifs. Vous l'avez compris, Sébastien Lecornu est sur une ligne de crête pour faire ses annonces sensibles. Il se rend dans un lieu symbolique, un chantier hydraulique dans le Jura, car l'hydroélectricité, elle, fait consensus.
Merci beaucoup, Lauriane Delanoë. C'est l'heure du monde d'Élodie à 5h23. Avec un auteur de bande dessinée ce matin, avec Élodie Suigo.
Bonjour Milo Manara.
Bonjour.
Vous êtes cet auteur italien de bande dessinée associé au mot érotique, considéré par beaucoup comme étant un grand maître italien du 9e art. Vous avez découvert la bande dessinée très tôt, hein, grâce au sculpteur espagnol Berrocal à travers Barbarella de Jean-Claude Forest notamment.
Oui, c'est ça.
Et Jodel de Guy Pellart à 22 ans. C'est comme cela que sont nées vos premières histoires et planches érotiques. Au commencement, il y a eu votre adaptation du Decameron de Bocas en 1974. Les aventures de Giuseppe Bergman dans À suivre en 78 et en 83 La consécration avec Le déclic, hein, qui vous a propulsé presque instantanément comme l'un des maîtres de la bande dessinée, justement toujours avec ce mot érotique associé. Aujourd'hui, vous publiez le deuxième et dernier tome Le nom de la rose d'Umberto Eco chez Glénat, le fameux chef-d'œuvre vendu à plusieurs millions d'exemplaires et traduit en 43 langues. L'histoire se déroule effectivement en l'an 1327 dans cette fameuse abbaye bénédictine du nord de l'Italie. Plusieurs moines sont retrouvés morts, hein, ce qui évidemment alerte les hautes autorités de l'Église et donc déclenche une enquête interne. Le décor, il est évidemment, Milo, inspirant, avec notamment cette bibliothèque labyrinthique et les secrets qui s'y cachent. Ça veut dire que ce personnage, il est central aussi?
La bibliothèque, c'est le centre autour de lequel bouge toute l'histoire. En effet, on parle d'un livre prohibé. Et c'est un livre qu'il a créé, Umberto Eco, la comédie d'Aristote, qui contient l'importance du rire, et c'était interdit de rigoler dans l'abbaye, parce que l'homme qui rit, il n'a pas peur de l'Église, il n'a pas peur du pouvoir, c'est contraire plutôt à la théorie, à le pouvoir de l'Église qui se base sur la peur de la mort, la peur de l'enfer. L'homme qui rit, il n'a pas peur de ça.
On est en 1327. Et pourtant, cette histoire, elle met en exergue des situations qui existent encore aujourd'hui. Beaucoup de régimes totalitaires tentent de limiter l'accès à la culture, à cette notion très importante de savoir.
Oui.
Aujourd'hui, on se rend compte à quel point Umberto Eco était vraiment visionnaire.
Oui, et je crois que la partie plus actuelle de l'histoire, c'est les débats sur la richesse et la pauvreté. On vit aujourd'hui dans un moment où l'écart entre la pauvreté et la richesse s'est devenu dramatique. Il n'y a même pas de justification économique. La richesse s'est tellement concentrée dans peu de mains qu'il n'y a pas de précédent dans l'histoire, sinon dans le Moyen-Âge.
À un moment donné, un ecclésiastique raconte ce qui se passe dans certaines églises et dans certains territoires. Et à un moment donné, c'est très fort parce qu'il dit si un prêtre touche à ce fruit défendu, si c'est une femme, c'est très cher. Si c'est un enfant ou un animal, ce n'est pas cher du tout.
Oui, il y a une concession de la fille de la part de l'Église. C'est la cause de tous les mâles du monde. Alors que Dante, Petrarca, ils ont toujours parlé de Béatrice, Laura, etc., d'une femme qui transforme l'homme dans la dimension terrain en dimension spirituelle. Donc la femme vue par la poésie de 1300, c'est la femme angélisée qui meilleure l'humanité en général.
C'est quoi l'érotisme pour vous d'ailleurs? Est-ce que c'est un art de vivre? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est une forme de poésie?
Je pense que l'érotisme, c'est l'élaboration culturelle du sexe. Alors que la pornographie, pour exemple, c'est exposition du sexe. Sans intelligence, il n'y a pas d'érotisme. Sans culture, il n'y a pas d'érotisme. Et sans amour, je crois qu'il n'y a pas d'érotisme. Je suis hétérosexuel, donc pour moi, c'est un jeu entre la femme et l'homme, de séduction, d'intention. Peut-être qu'il y a plus d'érotisme dans un regard qui est dans la nudité.
Quel regard, pour terminer, vous portez sur justement ce parcours à 80 ans aujourd'hui?
Oh bon, j'ai eu de la chance, vraiment. J'ai rencontré et même parfois collaboré avec les artistes que plus j'admirais dans la vie. Jean Giraud, Mébius, Hugo Pratt, Fellini. Quand j'étais jeune, j'ignorais jamais osé imaginer ma carrière comme ça. Je suis vraiment fortuné.
Merci beaucoup, Milo Manara, d'être passé dans le monde d'Élodie
bon,
sur
merci à vous.
France Info.
C'est une très belle interview.
Le nom de la rose, le volume 2, est disponible. Et si vous n'avez pas le volume 1, courez le chercher. Merci beaucoup.
Ah oui, merci.
Et merci à vous, Élodie Suigaud.
France Info Météo, avec la Maison des Travaux. Rénovation, décoration, extension. La Maison des Travaux, un interlocuteur unique pour réussir vos travaux partout en France.
Christine Peña, beaucoup de prudence aujourd'hui, oui, car la tempête Niels balaie la France.
Mais oui, nous la redoutions. Eh bien, elle est en train de passer, de balayer le pays. Effectivement, les rafales à 80, 90, ça c'est pour la moitié nord. Ça souffle quand même fort. Hein. Mais dans le sud, c'est du 130 à 150 qui sont craints, qui sont redoutés. Les pluies associées resteront conséquentes sur l'est, surtout du pays, donnant de la neige en montagne. La Savoie, je vous le rappelle, est en vigilance rouge pour le risque d'avalanche. Grande prudence, le manteau neigeux n'est pas stable du tout. Alors que sur le reste du pays, c'est un régime d'averse qui s'installe. De la pluie quand même, du soleil en Méditerranée entre le Languedoc-Roussillon et la Côte d'Azur. Mais les vents les plus violents se déplacent peu à peu vers la Méditerranée, effectivement, ce matin. Et ils vont s'éterniser toute la journée. Alors, des rafales encore là à 5h du matin ont été enregistrées. Du côté de Pau, dans le sud-ouest, ça souffle encore très très fort. La façade atlantique, Pau à 145 km/h.
Oui.
Quand même, c'est énorme. La douceur marquée hier avec les premiers 20 degrés de la saison dans le sud baisseront légèrement. Alors les températures sont encore au-dessus des valeurs de saison, mais moins marquées peut-être qu'hier. Demain, une nouvelle dépression se creusera au large du Portugal, fera remonter des pluies soutenues en Méditerranée. On a une autre dépression qui circulera vers les pays de la Loire, générant de fortes pluies entre la Bretagne, notamment le nord-ouest, jusqu'à Paris. Et vendredi, donc encore une journée bien pluvieuse, mais le vent se sera calmé. Et ensuite, de l'air froid s'imposera pour le week-end. On aura certainement un peu de neige jusqu'en plaine, entre le Nord, Paris, le Massif Central, jusqu'en Bourgogne pour dimanche. On surveillera donc ces températures. Et de fortes gelées jusqu'à moins 8 sur le Nord-Est.
Merci Christine Peña, qui vous attend sur France Info d'ici 6h. Marine Le Pen, qui connaît désormais la date. La Cour d'appel rendra sa décision le 7 juillet et elle saura si elle peut se présenter à la présidentielle. Retour sur la dernière journée d'audience qui arrive. Et puis un tiers des Français utilisent déjà l'IA pour faire leurs courses. Quelles conséquences pour le commerce traditionnel? Réponse à venir. Merci d'écouter France Info en ce 12 février. C'est l'heure d'un nouveau journal à 5h30.
France Info. William Guécosta.
Et revenons donc à cette tempête Niels, la tempête qui balaye une grande partie du pays. Une trentaine de départements, on le rappelle, sont donc en orange de la Bretagne jusqu'à la Corse et 4 en rouge, Gironde et Lot-et-Garonne pour le risque de crue, l'Aude pour le vent et bien plus loin, la Savoie pour le risque d'avalanche, à tel point que plusieurs domaines skiables sont fermés aujourd'hui, Mathieu Launoy.
5 sur 5, ça veut dire que l'entièreté du manteau neigeux est instable. Il peut donc y avoir des départs spontanés de grandes plaques de neige. Autrement dit, pas besoin du passage d'un skieur en hors-piste pour déclencher une coulée. Ces avalanches pourraient aussi être de grande taille, capables d'ensevelir des poids lourds et descendre des terrains avec une pente inférieure à 30 degrés. Avec ce risque, à 5 sur 5, la Savoie est aussi en vigilance rouge avalanche. C'est-à-dire que le phénomène ne concerne pas que ceux qui pratiquent la montagne, mais tous les habitants des massifs. Les avalanches peuvent atteindre les fonds de vallée, couper des axes routiers ou toucher des habitations, explique Météo France. Et avec cette situation d'alerte, aujourd'hui, certains domaines skiables sont fermés en partie ou en totalité. Par exemple, à Chamonix et Flaines, la grande majorité des pistes n'ouvrira pas ce matin. À La Plagne, fermeture totale du domaine skiable. Pareil pour la partie haute de Courchevel. Des fermetures décidées par les communes en commission de sécurité.
Merci Mathieu Launoy, ici Pays de Savoie pour France Info. Et le risque d'avalanche, il n'est pas présent qu'en Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère et les Hautes-Alpes sont aussi en vigilance orange. 2 morts dans un incendie dans le nord de l'Isère hier après-midi sur la commune de Saint-André-le-Gaz. L'une des victimes est un enfant de 8 ans. Une enquête est ouverte pour comprendre les causes de cette tragédie. Le parquet de Nice réclame le placement en détention provisoire d'un animateur de centre de loisirs. Il est soupçonné de viol et d'agression sexuelle sur de très jeunes enfants. 3 plaintes ont été déposées contre lui. L'homme travaille dans un centre qui accueille des élèves entre 3 et 6 ans. Un revers pour Donald Trump au Congrès. La Chambre des représentants a voté pour l'abolition des droits de douane décidés par le président américain contre le Canada.
avec, c'est important, des voix venues du camp républicain, le sien, malgré des mises en garde de la Maison Blanche. Mais ce vote n'aura sans doute pas de conséquences car Donald Trump peut y mettre son veto. Pas d'amélioration pour l'industrie française. Pour la deuxième année consécutive, il y a eu en 2025 plus d'usines qui ferment que d'usines qui ouvrent dans notre pays. Parmi les secteurs qui étaient déjà touchés, l'automobile, la chimie et ces nouveaux, l'agroalimentaire s'ajoute à la liste des secteurs en difficulté selon l'usine nouvelle. Et puis ils ont été irrésistibles, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry, sacré tard hier soir, champion olympique en danse sur glace à Milan. Ils ont gardé et même accru leur avance sur leurs adversaires à l'issue du programme libre deux jours plus tôt. Guillaume Cizeron conserve donc son titre olympique et sa nouvelle partenaire, Laurence Fournier-Baudry, avait bien du mal à réaliser ce qui lui arrivait hier soir.
L'expérience olympique, c'est l'expérience d'un tout. Puis de finir avec la médaille d'or, on ne pourrait pas demander mieux. C'est vraiment quelque chose de surréel. On a entamé la deuxième partie de la compétition, oui, avec confiance, mais confiance parce que c'est un programme qui nous touche beaucoup et qui est proche de notre cœur.
Alors, vous avez peut-être entendu une pointe d'accent québécois dans la voix de Laurence Fournier-Baudry, qui a été naturalisée française il y a 3 mois de cela. À suivre aujourd'hui, encore du patinage aux Jeux de Milan-Cortina, mais du patinage de vitesse que l'on suivra sur France Info avec Quentin Faircoq, espoir de médaille pour la France. Quart de finale, c'est en fin de journée avec une finale, s'il l'atteint, prévue juste avant 22h. Merci d'écouter France Info. Pour le moment, il est 5h34.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
La tempête Nils a donc touché terre et elle nous amène son lot de vents tempétueux, son lot de pluie avec des risques de crues. Faisons un point sur les vigilances, c'est important. Le Lot-et-Garonne et la Gironde sont donc placés en vigilance rouge pour ce risque de crues. L'Aude est placée en vigilance rouge au vent. La Savoie, nous en parlions à l'instant, en vigilance rouge pour avalanche. Et les autorités, évidemment, appellent à la plus grande prudence. Je vous propose d'écouter Alain Buquet, c'est le préfet de l'Aude qui rappelle les conseils. Signe de sécurité.
On a affaire à une vigilance rouge à partir de 6 heures concernant le vent, mais nous sommes déjà en vigilance orange en ce qui concerne les pluies inondations. Donc on va avoir un épisode qui va arriver en se cumulant avec d'autres et notre crainte, c'est évidemment lié aux arbres et aussi, si je peux me permettre, dans les zones qui ont été brûlées par le feu de ribote pendant le mois d'août. Donc un certain nombre de mesures, la première fermeture des écoles, des crèches et de tous les lieux d'accueil pour les enfants, fermeture des parcs et jardins publics, fermeture des massifs forestiers évidemment, interdiction des manifestations qui se déroulent en extérieur, et puis des consignes demandées aux entreprises de faire travailler les gens en télétravail, dans les services de l'État, idem, enfin sauf bien sûr pour ceux qui auront à gérer la crise, et puis on anticipe une présence massive des sapeurs-pompiers de l'Aude avec un renfort des moyens nationaux que j'ai demandé et obtenu auprès du cabinet du ministre de l'Intérieur.
Alors justement, voilà, quels sont ces moyens qui sont positionnés, on va dire, et prêts à intervenir ?
On a essayé de mailler le département pour être en capacité d'intervenir partout, que ce soit évidemment en priorité pour sauver ou pour préserver des vies humaines. Ensuite, pour rétablir, lorsque ce sera nécessaire, la circulation, les réseaux, parce que quand des branches d'arbres tombent, ça peut endommager des réseaux, et donc ça peut créer des poches, des enclaves, des endroits où les gens peuvent avoir besoin d'être secourus, des besoins médicaux, enfin des choses de toute nature. Donc il faut mailler le territoire. Donc on aura à peu près pas loin d'une centaine de sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours, et puis plus de 150 renforts extérieurs qui sont prévus venant des départements, notamment de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a priori sont un peu moins impactés par cet épisode météo et qui viennent, comme ils viennent pendant l'été, nous renforcer.
Est-ce qu'il y a aussi un impact sur les transports ?
On a interdit les transports scolaires, les écoles étant fermées, ça allait de soi. Et puis des mesures de limitation de vitesse sur les autoroutes qui traversent le département et sur aussi les parties non autoroutières. Et on fait passer par tous les canaux possibles, et merci de votre invitation, on invite les gens à rester chez eux. Le meilleur moyen de se préserver, c'est de rester chez soi. Si pour des raisons impératives, on est obligé de prendre son véhicule et de se déplacer, il faut le faire avec beaucoup de prudence, ne pas s'engager sur des voies fermées, ne pas s'engager nager sur des voies où il y a de l'eau. Hein, ça peut paraître basique ce que je dis, mais malheureusement, il y a beaucoup d'accidents dus à ça. Bah, il faut faire très très attention à soi, très très attention aux autres, s'informer sur les sites officiels en écoutant Radio France, en n'hésitant pas à nous contacter en préfecture. Hein, on a une cellule d'information au public qui est ouverte à partir de 6h de façon à pouvoir renseigner nos concitoyens et faire en sorte que collectivement, on puisse traverser en toute sécurité cet épisode.
Est-ce que le trafic ferroviaire est interrompu également ?
Le trafic ferroviaire va être allégé.
Il pourrait y avoir un impact tout de même sur le trafic des trains. Le mieux, c'est de se renseigner évidemment avant. Un tout dernier mot aussi, peut-être des consignes de bon sens pour celles et ceux qui ont des jardins, de rentrer au maximum, évidemment, peut-être le matériel. On attend des rafales très importantes.
Hein. Oui, on attend des rafales à 150 km/h. Donc effectivement, tout ce qui est extérieur et qui peut être mis en sécurité ou arrimé, il faut le faire, car avec un vent à cette vitesse, ça peut être dangereux pour les personnes autour. Vraiment, ma grande consigne, c'est de rester chez soi. C'est un épisode qui devrait se terminer en milieu d'après-midi. Voilà, on reste chez soi et puis on attend que les choses se passent.
Le préfet du département de l'Aude, placé donc en vigilance rouge au vent, Alain Buquet, qui répondait aux questions France Info de Julien Langlais. Trouve-moi un frigo pour 500 euros, je cherche une paire de chaussettes taille 43, rouge et jaune à petits pois. Voilà ce que vous pouvez demander à l'intelligence artificielle désormais. Pour trouver votre bonheur sur les sites d'e-commerce, et un tiers de Français le font déjà, selon une étude de la FEVAD, la Fédération du secteur, et ce sera sans doute la moitié des Français d'ici 2030. Alors pour le moment, l'intelligence artificielle pour faire des achats est encore limitée en France, mais le secteur est déjà bouleversé par cette innovation. Philippe Moati est professeur d'économie à l'Université Paris Diderot, il est aussi le cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation.
Pour l'instant, en France, on ne peut pas encore finaliser la transaction. C'est-à-dire que si vous avez choisi la fameuse machine à laver dont on parlait tout à l'heure, oui. Et ben vous allez aller sur le site qui la vend et puis vous allez finaliser la transaction classiquement. Par contre, ce qui est déjà dans les tuyaux qui se pratiquent aux États-Unis, c'est en train de se mettre en place tout ça, hein, de la part des géants du numérique, c'est qu'effectivement, vous n'aurez plus besoin de quitter l'application. Une fois que vous aurez fait votre choix pour cette machine à laver, tac, vous appuyez sur le bouton et c'est l'IA qui va réaliser la transaction à votre place. Donc on sent bien qu'on est face à une révolution. En fait. Oui. Les conséquences sont colossales.
D'abord, et ça vous surprend quand même de voir la vitesse à laquelle nos habitudes de consommation ont changé en si peu de temps ?
Oui, oui, parce que c'est rare qu'on voit des choses se déployer aussi rapidement. Moi, j'ai un peu d'historique. À l'Obsoco, on avait déjà posé la question en septembre, fin septembre, est-ce que vous avez déjà utilisé une IA pour préparer un achat ? On avait 28% des Français qui répondaient oui. Et on a reposé cette question fin décembre, on obtient le même chiffre que la FEVAD, 31%. C'est-à-dire qu'en 3 mois, on a pris 3 points de pourcentage. Et sur ces 31%, 20% nous disent oui plusieurs fois. Et c'est 61% chez les 18-24 ans. 61% sur les 18-24 ans, c'est un effet d'âge qui est massif. Et pourquoi ? C'est tellement facile, si vous voulez. C'est tellement facile. En plus, on peut maintenant le faire sur le mode de la conversation. On parle, l'IA répond, quoi. Donc c'est tellement facile. On l'a déjà tellement utilisé pour le reste. C'est le prof qui vous parle, mais 18-24 ans, ils savent très bien utiliser l'IA pour faire les devoirs à la maison, quoi. Donc c'est déjà rentré dans les mœurs pour un tas de choses du quotidien. C'est tout à fait normal qu'on utilise ça pour faire des achats. Ouais. Et en plus, ça permettra de mieux consommer, parce qu'on fera des choix plus pertinents, plus éclairés. Par contre, ça va bouleverser les filières d'intermédiation du côté de l'offre. Et ça, les professionnels sont tétanisés par rapport aux conséquences potentielles que ça peut avoir.
Il y a notamment la question du référencement sur le moteur de recherche qui ne suffira plus. Comment les commerçants vont faire pour apparaître dans les algorithmes pour que l'IA propose leur marque ?
Il faudra qu'ils acceptent les protocoles des IA. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. En gros, ils acceptent
mais
que
c'est
les robots des IA aillent visiter leur site. Et il faudra en plus qu'ils présentent leur offre d'une manière appropriée. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on présentait des fiches techniques en quelque sorte. Là, il faut plutôt présenter ce à quoi sert le produit. Il faut se mettre dans la peau du consommateur en quelque sorte. Et l'IA ira chercher par ailleurs ce que disent les gens qui ont déjà acheté sur la qualité du produit, etc. etc. Le risque, en fait, c'est de court-circuiter les intermédiaires. Et les premiers intermédiaires qui risquent de pâtir de ça, ce sont les fameuses places de marché sur Internet. Et quel est l'intérêt de passer par une place de marché ? L'IA va vous mettre en rapport directement avec le vendeur, sans passer par la place de marché.
Mais ça risque de favoriser aussi les grandes enseignes, les Zara...
Oui, celles qui ont des marques propres, si vous voulez. Parce que si finalement votre choix porte sur un vêtement Zara, bah finalement la transaction se fera chez Zara. Mais Zara va perdre le contact avec le client.
Ouais.
Parce que du coup, on n'ira pas sur le site de Zara, il n'y aura pas cette relation qui est très importante pour une marque, hein, cette capacité de montrer l'offre, l'univers de la marque. Non, ça se fera via l'intermédiaire qui est l'IA. Donc c'est vraiment une révolution qu'on a devant nous, avec des conséquences qu'on mesure encore assez mal. C'est la seule chose qui est certaine, c'est qu'on va avoir des acteurs qui vont devenir très puissants. Ceux qui détiennent ces technologies d'intermédiation vont devenir extrêmement puissants. Et évidemment, leur capacité qu'ils auront d'influer sur le choix des consommateurs, bah, ils vont le monnayer. Tout ce qui crée du trafic, ça génère finalement une volonté de récupérer sa dîme.
Philippe Moati, Sophie Auvigne, il y a une question pour vous sur la neutralité notamment. Sophie.
Ben oui, comment choisir? Est-ce qu'on peut faire confiance à ChatGPT pour effectivement nous flécher vers le produit qui correspond précisément à nos besoins et pas forcément à celui du vendeur?
Ah ben ça, c'est une condition sine qua non. C'est-à-dire que si on se met à douter de la pertinence et de la sincérité de la recommandation, ça marchera pas. Donc les patrons de la tech nous disent ouais non, ça sera parfaitement transparent et sincère.
Il faut les croire.
Ils gagneront l'argent différemment et prendront un pourcentage sur les transactions comme le font les places de marché actuellement. Et puis il y aura de la publicité certainement. On aura des offres sponsorisées un peu comme sur Google. Mais vous voyez, Google est sincère quand il vous montre les résultats de vos requêtes et à côté de ce qu'il vous montre, il y a des offres sponsorisées. C'est signalé comme tel. Donc ça, c'est une condition sine qua non et je crois qu'ils l'ont parfaitement compris, qu'il ne faut pas jouer avec ça, sinon effectivement ça ne fonctionnera pas.
Philippe Moati, professeur d'économie, auteur de La plateformisation de la consommation paru aux éditions Gallimard, qui répondait sur France Info aux questions de Céline Baydarcourt et de Sophie Auvigne. Marine Le Pen saura le 7 juillet prochain si elle peut se présenter à la présidentielle. C'était hier le dernier jour de son procès en appel. Dossier complet dans un instant.
France Info, 5h-6h.
6h moins le quart, c'est l'heure de l'info en une minute avec Sarah Derce. À la une, 7 médailles pour la France aux Jeux de Milan Cortina.
Dont 4 seulement hier en biathlon, en ski de boss et en danse sur glace, avec de l'or et de l'élégance pour les patineurs Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry. La France désormais 6e. Marine Le Pen pourra-t-elle se présenter à l'élection présidentielle? Elle sera fixée sur son sort le 7 juillet. La cour d'appel rendra sa décision dans le dossier des assistants des eurodéputés du Rassemblement National. Marine Le Pen risque une peine d'inéligibilité. La France a perdu plus d'usines qu'elle n'en a ouvert pour la deuxième année consécutive. Plus de 10 000 postes sont en danger. Les secteurs en difficulté, l'agroalimentaire, la chimie ou encore l'automobile. La Savoie en vigilance rouge, risque d'avalanche très élevé, forte chute de neige en pleine vacances scolaires. La Plagne et d'autres stations de ski fermées. La tempête Nils avec ses risques de tornades dans l'ouest. Une trentaine de départements en vigilance également aux crues et aux vents violents.
Vous l'évoquiez, Sarah Derce, le monde politique a donc déjà coché la date dans son agenda, la date du 7 juillet. Ce jour-là, Marine Le Pen saura si elle peut se présenter à la présidentielle de 2027. La cour d'appel de Paris dévoilera sa décision ce jour-là dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du Front National. Si elle est à nouveau déclarée inéligible par la cour d'appel, Marine Le Pen a déjà prévenu qu'elle passera le relais à Jordan Bardella, même en cas de pourvoi en cassation. Bonjour Pierrick Bonneau.
Bonjour.
5 mois de délibéré, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour Marine Le Pen.
Non, effectivement. Réaction mitigée de la patronne des députés du RN à France Info hier soir. « Je me réjouis que la Cour prenne le temps d'analyser les nombreux problèmes de droit que pose le dossier », nous confie Marine Le Pen. Mais dans le même temps, plus le délibéré est tard, plus la campagne présidentielle tarde à démarrer. Dans le même esprit, un peu plus tôt à la sortie de la salle d'audience, la triple candidate à la présidentielle avait eu ces mots. « Plus c'était tôt, mieux je me portais ». En fait, au RN, on s'était mis à espérer ces derniers mois que la cour d'appel puisse rendre son arrêt en juin, voire fin mai, ce qui aurait permis au parti d'être fixé plus tôt et ainsi pouvoir rentrer dans la course à la présidentielle avec le nom d'un candidat. Car sans ce nom, le parti ne peut pas, par exemple, créer d'associations de financement indispensables pour la bonne tenue des comptes de campagne.
Et en attendant cette décision, Pierrick, est-ce qu'on sait ce que va faire Marine Le Pen?
Alors, elle va prendre un peu de vacances, c'est ce qu'elle chuchotait ces derniers jours en marge de son procès, puis plusieurs déplacements de campagne à son agenda, les municipales approchent à grands pas et pendant ces 5 mois de délibéré, Marine Le Pen compte bien continuer à faire de la politique. La députée a d'ailleurs prévu de passer la soirée du premier tour à Hénin-Beaumont dans sa circonscription du Pas-de-Calais. Et même sans connaître le nom du candidat, les réunions préparatoires pour la présidentielle vont débuter dès le lendemain des municipales, nous confie un proche de Jordan Bardella, qui nous précise que ces réunions réunions seront bien présidées par Marine Le Pen. D'ailleurs, c'est son directeur de cabinet, Ambroise de Rancourt, qui est à la tête depuis de longs mois déjà de tout le travail programmatique en vue de la présidentielle. 7 juillet, la décision de la Cour d'appel. On connaîtra aussitôt le nom du candidat du RN pour 2027, sauf évidemment s'il y a des doutes sur l'interprétation de l'arrêt de la Cour. Il faudra ensuite attendre l'automne pour que Marine Le Pen ou Jordan Bardella soient officiellement intronisés candidats à la présidentielle lors d'un congrès du parti.
Merci beaucoup à Pierrick Bonneau du service politique de France Info qui avait suivi ce procès de Marine Le Pen. Alors vous l'évoquiez, Pierrick, pas de grande déclaration de la chef de file du Rassemblement National à l'issue de ce procès. En revanche, ses avocats ont pris la parole. Rodolphe Bosselu est l'un des deux avocats de Marine Le Pen et il espère avoir convaincu les magistrats.
J'ai l'impression effectivement que la Cour, a, durant tout ce mois d'audience, a pris la mesure de la complexité du dossier, de la complexité des enjeux juridiques de ce dossier, et que donc il est légitime qu'il y ait un temps certain réservé pour y donner une réponse.
Vous attendiez une réponse quand même plus rapide ?
Vous savez, on n'a pas d'exigence comme avocat sur les exigences de temps. La Cour prendra le temps qui lui est nécessaire. Je constate simplement que devant cette juridiction, nous avons pu développer avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'écoute, un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes de droit et qui devront être tranchés.
Vous êtes le premier jour à avoir mentionné l'élection présidentielle.
Non, mais j'ai rappelé pourquoi ma cliente avait dit que ce serait la dernière décision, parce qu'il est totalement irréaliste, comme j'ai pu l'entendre, de penser que parce qu'il y aurait un arrêt de la Cour de cassation selon le résultat de la Cour d'appel en janvier, l'élection présidentielle serait sauvée pour ma cliente. Ça n'a aucun sens. Une élection présidentielle, c'est un an de campagne et il faut, me semble-t-il, être déjà très au fait de qui pourra être candidat.
La présidente a donc une décision qui est presque politique à prendre.
Non, elle a une décision juridique qui aura des conséquences politiques.
Vous avez dit ma cliente n'a pas de regrets.
Non, je dis simplement qu'elle était particulièrement contente de la façon dont les débats s'étaient déroulés. Ça n'augure de rien. Je ne dis pas aujourd'hui que nous avons la moindre conviction de ce que sera la décision, mais au moins avons-nous été entendu. Et au moins avons-nous pu poser un certain nombre de problèmes qui ne sont pas des problèmes simplement pour échapper à une quelconque responsabilité, mais des problèmes qui sont au cœur de l'appréciation des faits.
Rodolphe Bosselu, l'un des deux avocats de Marine Le Pen. En revanche, maître Patrick Maisonneuve, lui, espère une nouvelle condamnation. C'est l'avocat du Parlement européen dont Marine Le Pen est accusée dans cette affaire des assistants parlementaires du Front National d'avoir détourné des fonds.
La Cour d'appel est totalement libre de sa décision qu'elle rendra le 7 juillet. Elle peut confirmer, elle peut aggraver, elle peut infirmer, elle peut faire entièrement ce qu'elle veut. En ce qui concerne le délai, je rappellerai quand même qu'entre la décision qui a été rendue en mars de l'année dernière et aujourd'hui, c'est un temps très bref le parquet général a pris soin d'organiser une audience dans les délais très brefs par rapport aux autres procédures qui sont pendantes devant la Cour d'appel. Ça, c'est la première chose. Maintenant qu'il y ait un délibéré au 7 juillet, c'est un délai, je dirais, compte tenu du nombre de personnes, du nombre d'appelants, d'une certaine complexité quand même, eh bien, c'est un délai qui me paraît tout à fait normal et tout à fait raisonnable. Voilà, mais en tous les cas, il est clair que les avocats généraux ont maintenu leur position qui a été de dire il y a un système qui a été mis en place, ça a duré des années, il y a plusieurs millions d'euros qui sont en cause. Maintenant, la Cour appréciera s'il y a des éléments intentionnels ou pas intentionnels. Ce qu'il y a eu de un peu nouveau, effectivement, en ce qui concerne aujourd'hui, je dirais, les plaidoiries, c'est que mon confrère Bosselu a clairement annoncé que s'il y avait une peine d'inéligibilité ferme qui était confirmée par la Cour d'appel, à ce moment-là, Marine Le Pen ne chercherait pas à contourner l'obstacle en allant devant la Cour de cassation. C'est ce qui nous a été annoncé.
Est-ce que ce procès était vraiment différent du premier et si oui, de quelle manière?
Il était un peu différent dans la mesure où Marine Le Pen elle-même, lors du premier jour de ce procès, le 13 janvier, a dit « s'il y a eu un délit, s'il y a eu une infraction, je veux bien l'admettre ». Alors on plaide, après il y a des plaidoiries de relax, mais en tout cas, Ça a été dit. La deuxième chose aujourd'hui, c'est que les avocats de Marine Le Pen ont bien dit, bon, certes, elle doit être mise hors de cause, mais si elle n'est pas mise hors de cause, il ne pourrait pas qu'il y ait des conséquences trop lourdes en ce qui concerne son avenir politique. Je dirais que la différence, parce que j'ai fait les deux procès, donc la différence entre
les deux. C'est pour ça que je vous pose la question.
Entre les deux procès, c'est que la défense a eu une posture moins frontale, si je puis dire, qu'elle n'avait eu devant le tribunal. Les choses se sont passées calmement et sereinement, d'ailleurs, je crois que le mot sereinement peut être utilisé. Maintenant, chacun développe ses arguments et maintenant, c'est la Cour, dans son délibéré de plusieurs mois, qui donnera une réponse le 7 juillet.
L'avocat du Parlement européen, maître Patrick Maisonneuve, qui répondait à Julien Langlais sur France Info. La tentaculaire affaire Epstein ne touche pas que le monde politique, mais aussi le monde de la musique. Ce sera la playlist de Sarah Ders dans un instant après l'Actu Écho avec Emmanuel Cuny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec la Banque Transatlantique, maison de gestion de fortune et créatrice d'opportunités.
Actualité économique en trois titres. Commençons par l'Association de défense des consommateurs Famille Rurale qui réclame une enquête sur la grande distribution.
Oui, une enquête précisément sur les marges bénéficiaires qui sont réalisées par les hyper et supermarchés. Famille Rurale annonce donc son intention de saisir l'autorité de la concurrence. Elle appelle de ses voeux une enquête sectorielle sur la formation des prix et des retombées financières pour les distributeurs. L'association consumériste accuse la grande distribution de freiner l'accès à une alimentation saine. Selon Famille Rurale, l'opération consiste pour les supermarchés à perdre de l'argent sur certains produits d'appel mauvais pour la santé, comme les sodas, et à se rattraper sur d'autres produits, comme les fruits et légumes.
L'État a investi dans le lithium pour renforcer son indépendance dans la transition énergétique.
Oui, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, le bras financier de l'État, la Banque des territoires va financer à hauteur de 50 millions d'euros le projet de la société Imerys. Il s'agit d'une mine située sur la commune d'Échassières, dans le département de l'Allier. Ce site d'extraction du composé chimique très précieux pour l'industrie peut devenir l'un des 5 plus importants au monde. Imerys exploite déjà sur le site d'Échassières une mine de kaolin, argile utilisée notamment pour la fabrication de peintures et de papier.
Le brasseur néerlandais Heineken s'apprête à engager, Emmanuel, un important plan social.
Oui, le deuxième producteur mondial de bière annonce la suppression prochaine de 5 000 à 6 000 emplois. La direction invoque d'importantes difficultés de marché. La consommation de bière est en net recul depuis la crise Covid et avec les nouvelles habitudes de consommation, notamment chez les jeunes. Toutes les entités mondiales d'Heineken sont concernées, avec un impact très probablement plus important en Europe, mais on ignore pour l'instant dans quelle proportion.
Emmanuel Cuny, on va sortir les marteaux et les râteaux dans votre brief éco dans une demi-heure sur France Info.
Oui, le marché du bricolage et du jardinage recule. Fini la flambée constatée pendant les confinements liés au Covid, dont les ménages avaient profité pour réaménager leur intérieur. Moins de bricolage, moins de jardinage. Nous verrons que les professionnels invoquent notamment l'impact de la crise de l'immobilier.
Merci beaucoup Emmanuel Cuny. À 5h56, c'est l'heure de la playlist de Sarah Ders. Et l'affaire Jeffrey Epstein s'invite dans votre playlist avec de nouvelles conséquences dans le milieu de la musique.
Chapel Roan, c'est cette voix. La chanteuse américaine quitte son agence artistique, Wasserman, dirigée par Casey Wasserman, après des révélations des liens avec le milliardaire américain et délinquant sexuel Jeffrey Epstein. La pop star écrit sur X « Je refuse de rester les bras croisés ». Casey Wasserman a échangé en 2003 des messages graveleux avec Ghislaine Maxwell, condamnée depuis à une peine de 20 ans de prison pour avoir aidé Jeffrey Epstein, son ex-conjoint, à recruter des prostituées mineures. Le Californien figure parmi les personnalités présentes pendant un voyage humanitaire avec donc Jeffrey Epstein en 2002. Et sans aller jusqu'à quitter l'agence, Bethany Cosentino, chanteuse de Best Coast moins connue, elle appelle au départ de Casey Wasserman et à un changement de nom de l'agence artistique. Casey Wasserman est par ailleurs président du comité d'organisation des Jeux Olympiques 2028 de Los Angeles. Il a pour l'instant refusé de quitter ses fonctions tout en s'excusant, sans convaincre le groupe de rock Wednesday. Wednesday a également claqué la porte de l'agence artistique dont fait partie Pharrell Williams et Coldplay. Cassé Wasserman vient de recevoir le soutien du comité exécutif des JO 2028.
Merci beaucoup Sarah Ders pour la playlist de France Info. C'est l'heure de la météo, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui.
France Info Météo, avec la Maison des Travaux, rénovation, décoration, extension. La Maison des Travaux, un interlocuteur unique pour réussir vos travaux partout en France.
La journée, Christine, sera encore copieusement arrosée, mais surtout très venteuse.
Très venteuse, effectivement. C'est surtout le vent qu'on regarde. Hein. C'est le sujet d'attention, le point d'attention pour aujourd'hui avec ces rafales extrêmement violentes de 130 à 150 km/h quand même dans le sud. L'Aude est en rouge d'ailleurs. On a pas mal de vigilance orange pour les crues, pour les pluies, pour ce vent et pour le risque d'avalanche sur la Savoie. Alors les pluies vont tomber toute la journée fortement sur l'Est avec de fortes précipitations neigeuses en montagne avec ce risque d'avalanche majeur pour avoir une vigilance rouge pour la Savoie. C'est que c'est vraiment majeur, attention. Sur le reste du pays, c'est un ciel de traîne, un régime d'averse avec beaucoup de vent, effectivement. De belles éclaircies autour de la Méditerranée, le pourtour méditerranéen et ces vents tempétueux qui se maintiennent toute la journée. Alors ils se déplacent en Méditerranée. Ça va décroître sur la façade atlantique, le sud-ouest au fil des heures. À noter, il y a quand même un risque d'orage et de tornades sur l'ouest du pays, vers la Gironde ou encore la Charente-Maritime, surtout pour cet après-midi. Et puis enfin, les températures, le fond de l'air est encore très doux ce matin et le reste cet après-midi. On attend une descente d'air froid pour ce week-end. Tiens, on va s'intéresser un peu aux jours à venir. Alors demain, fortement pluvieux, mais le vent se sera calmé. En revanche, de fortes pluies et de précipitations soutenues remonteront en Méditerranée. Sur les Pays de la Loire également, nous avons pas mal de pluie pour demain. Et puis, petite accalmie samedi, mais descente d'air froid avec dimanche matin sur le nord-est, du moins 8 degrés attendu et surtout un risque de neige du nord jusqu'en Bourgogne, à Paris et jusqu'au Massif central pour dimanche, avant un redoux qui arrivera rapidement.
Merci beaucoup Christine Peña, cette météo violente. On va la surveiller avec vous Christine tout au long du 6-9 qui commence avec Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme.
Effectivement, merci William. On va vous retrouver à 7h. On garde évidemment...